On continue notre émission, notre programme aujourd'hui. On se penche particulièrement un peu plus pointu, encore une fois, un sujet qui concerne évidemment la santé, l'activité physique pour tous. Il y a 64 000 jeunes Québécois qui vivent avec une limitation fonctionnelle et qui sont souvent ignorés des initiatives de sensibilisation à l'importance d'un mode de vie sain. C'est pourquoi le Défi sportif Altergo a élaboré le projet « Choisir de gagner » soutenu par Québec en forme. Il vise à promouvoir auprès des jeunes ayant une limitation fonctionnelle et leur entourage l'adoption de saines habitudes de vie sur le plan du mode de vie actif et de la saine alimentation. Et pour nous en parler davantage, j'accueille en studio Mme Elsa Lavigne, qui est directrice par intérim du projet « Choisir de gagner ». Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invitée.
Donc, en quoi consiste le projet « Choisir de gagner » ?
Ben, c'est ça, comme vous l'avez dit, on a deux objectifs majeurs. Donc, on a un objectif de sensibilisation des jeunes, des intervenants et des parents à l'importance d'adopter des saines habitudes de vie. Et on a aussi un objectif plus en accessibilité universelle qui vise à réduire les obstacles systémiques, comme on dit, qui empêchent ces jeunes-là d'adopter des saines habitudes de vie. Donc, on agit autant sur les organisations que sur les individus.
Et ce serait quoi les obstacles que vous avez notés, justement, et sur lesquels vous travaillez?
Bien sûr qu'ils sont nombreux. Ils correspondent principalement aux quatre axes de l'accessibilité universelle. Donc, on a des obstacles au niveau physique. Souvent, les lieux de pratique ne sont pas adaptés aux jeunes. On a des obstacles au niveau de l'information, des communications. Donc, l'information sur les activités adaptées n'arrive pas forcément jusqu'à ces jeunes-là. Mmh. Ou alors, la forme des communications n'est pas adaptée. Il y a beaucoup d'obstacles, surtout au niveau des attitudes. Je dirais que ça, c'est l'obstacle qui est le plus frappant. Souvent, on se dit que ces jeunes-là n'ont pas forcément besoin de faire de l'activité physique parce qu'ils sont bien trop maganés pour ça.
Oh.
Alors que pour eux, finalement, c'est d'autant plus important que pour les autres. On a des statistiques à l'appui qui sont assez frappantes. On sait, par exemple, que ces jeunes ont 2 à 3 fois plus de chances de présenter des problèmes d'embonpoint ou d'obésité. Donc, quand on connaît la statistique au niveau du Québec, qui est à peu près de l'ordre de, je pense, 22% de gens qui font des problèmes d'obésité, enfin, d'embonpoint, on peut s'imaginer que c'est 50 à 75% des jeunes qui ont une limitation fonctionnelle qui ont ce genre de problème.
Oui, exact. Mm. Et c'est d'autant plus important de prendre en charge le problème, en fait, lorsque, justement, ils sont jeunes et qu'ils ne sont plus...
Exactement.
Avant d'arriver dans la vingtaine, dans la trentaine, où est-ce que ça prend de l'ampleur?
Parce qu'on dit souvent, d'ailleurs, que le sport n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Donc, s'il fait mauvaise impression la première fois, souvent, c'est trop tard.
Mm. Puis, comment est-ce que ça s'articule, en fait, ce programme-là? Lorsqu'on arrive dans une école, est-ce que ça se passe dans les écoles principalement ou dans d'autres lieux aussi?
Ça se passe essentiellement dans les écoles. C'est vrai que cette année, on a dû changer un petit peu notre stratégie puisqu'on a moins de moyens. On est sur notre dernière année. Mais globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'outiller les intervenants. Donc, on a cette année 2 activités principales. Une où on se déplace dans les commissions scolaires pendant des journées pédagogiques où on regroupe tous les enseignants en éducation physique et on leur fait une petite présentation sur l'importance de leur rôle pour développer justement le goût du sport chez ces jeunes-là, le goût de manger sainement. On leur présente souvent le parcours d'un athlète qui parle de son expérience et ensuite on leur fait essayer des activités adaptées. Donc ça peut être autant le goalball que le basket en fauteuil roulant ou des choses comme ça. Mais on a une de nos autres activités qui vise à inviter les jeunes de toute une région dans un centre communautaire, comme on va faire à Gatineau en novembre.
Okay.
Donc on s'est associé avec la ville de Gatineau ainsi que l'unité régionale de sport et loisirs, donc c'est Sport et loisirs Outaouais. Et on invite tous les jeunes, on invite aussi des organismes qui offrent des activités adaptées dans la région. Et le but, c'est de faire le lien un peu. On sait que souvent, ces organismes ont des problèmes de recrutement, donc ça leur permet d'être en contact avec les jeunes. Ça fait découvrir aux jeunes aussi ces activités-là, et ça outille les intervenants en même temps. Donc, c'est un peu à triple volet.
Oui, c'est un triple volet. Est-ce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la tournée?
On peut dire ça. Tourner, c'est un peu un mot valise, dans le fond, qu'on utilise en fonction des moments. Donc, quand on se déplace, généralement, pour faire des activités, que ce soit auprès des intervenants ou des jeunes, on appelle ça des tournées, oui.
Et puis, est-ce que les activités dont vous avez donné comme exemple, par exemple, le basketball en fauteuil roulant, est-ce que ce sont nécessairement des activités qui sont en compétition au défi sportif Altergo ou on peut aller aussi vers quelque chose de plus ludique?
La plupart du temps, c'est des activités qu'on offre quand même parce que le but est que ces jeunes-là puissent continuer après dans le milieu à les pratiquer. Donc, c'est vrai qu'on essaye de faire avec des activités existantes, mais ça nous permet aussi de leur montrer des outils au niveau, par exemple, juste du matériel utilisé qu'ils peuvent utiliser dans différents contextes après. Donc, c'est pas forcément des sports en compétition ou des défis sportifs.
Et vous avez des activités pour tous les types de conditions, que ce soit des limitations physiques, intellectuelles, troubles du spectre de l'autisme, par exemple, ou même si on parle de quelqu'un qui a des problèmes de dextérité fine, est-ce qu'il va trouver quelque chose dans les activités proposées?
Oui, en effet. En fait, nous, on part du principe, nous, on est plus pour l'inclusion que l'intégration, si on veut. Donc, on n'adapte pas nécessairement les activités en disant le goalball, c'est pour les gens qui ont une déficience visuelle, ou le basketball en fauteuil roulant, c'est pour les gens qui ont une déficience motrice. Nous, on part du principe que c'est la façon comment dire, d'organiser l'activité qui va permettre la participation des jeunes. Et on se rend compte souvent que des sports qui ne sont pas destinés à certaines populations sont très adaptés. Comme l'exemple qui, pour moi, est le plus frappant est le goalball. Ça marche très bien avec les jeunes qui ont un problème d'estime de soi. Donc, souvent, les jeunes qui ont, par exemple, un trouble du langage ou de la parole, qui, comme ils ont un bandeau, ils ne voient pas du tout le regard des autres et même eux ne se sont pas forcément conscients de l'environnement ambiant. Donc, ils vont s'engager beaucoup plus dans l'activité.
Juste brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous décrire ce sport
Ce
pour
sport,
les auditeurs à la maison qui n'en auraient jamais vu?
c'est un sport qui a été inventé à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un but de réadaptation des gens qui auraient perdu la vue au combat. Donc ça se joue, je pense, sur un terrain de basketball, si mes souvenirs sont bons. Il y a deux buts qui font toute la largeur du terrain et qui arrivent à peu près au niveau des épaules. Et les équipes sont constituées de trois joueurs sur le terrain, puis il y a des remplaçants, bien sûr. Et les trois joueurs sont à la fois des attaquants et des gardiens de but. L'objectif, c'est qu'il y a une balle, donc tout le monde a les yeux bandés pour que tout le monde soit à égalité. Et la balle est munie de grelots à l'intérieur. Et c'est de faire des lancers pour que ça rentre dans le but adverse, dans le fond.
Et c'est avec Louis qu'on
C'est
note,
avec
en fait,
Louis,
qu'on essaie de
exactement.
repérer où est la balle sur le terrain.
Exactement. Donc c'est assez intéressant pour les gens qui n'auraient jamais essayé. Je vous invite à le faire. C'est très ludique.
Absolument. Comment est-ce que vous faites pour mesurer, si on veut, les impacts ou les traces que votre passage laisse une fois dans les écoles? Est-ce que vous avez des feedbacks d'enseignants, par exemple, qui vous reviennent avec en ayant essayé l'activité dans leur groupe? Comment est-ce que vous voyez cette influence-là que vous avez?
C'est une très bonne question parce que justement, c'est assez difficile d'évaluer, surtout quand on se base sur les saines habitudes de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le jeune a mangé mieux, a fait plus de sport? C'est assez difficile. On travaille avec l'Université du Québec à Trois-Rivières qui fait de l'évaluation. Donc, eux, ils vont aller justement, à chaque fois qu'on passe quelque part, ils vont contacter les intervenants pour voir si certaines choses ont été mises en place. Puis, suite aux activités qu'on fait, on fait remplir un petit peu des sondages aussi avant l'activité et quelques mois ensuite pour voir si les enseignants ont intégré certaines choses dans leur cours. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la chose la plus facile à évaluer puisqu'on agit beaucoup sur les attitudes. Donc, c'est difficile à mesurer.
Oui, comme vous disiez que c'était un des obstacles les plus importants ou les plus présents, c'est de travailler entre autres sur cette idée d'inclusion dans le
Exactement.
sport finalement. Et c'est quelque chose qui va se mesurer sur le long terme.
Exactement. Puisque souvent, d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que dans les écoles spécialisées, quand c'est des groupes homogènes, généralement, les enseignants n'ont pas de problème à intervenir avec ces jeunes-là. C'est plus quand on est en inclusion un ou deux jeunes dans une classe régulière que là, le prof ne sait pas trop quoi faire. Donc, c'est difficile de mesurer en disant une activité a-t-elle été mise en place. C'est plutôt est-ce que le jeune a été davantage inclus dans le cours. Donc, ça, c'est plus difficile à voir.
Et puis, si on souhaite accueillir cette tournée-là de choisir du programme Choisir de gagner, comment est-ce qu'on fait? Comment on procède?
Il n'y a qu'à nous appeler. Donc, vous pouvez trouver nos coordonnées sur notre site internet qui est choisirdegagner.com. Sinon, donc, toutes les indications sont là. Donc, info@choisirdegagner.com ou 514-933-2739.
On mettra évidemment un lien vers le projet justement sur le site, sur la page de l'émission sur Canal M. En terminant, qu'est-ce qui manque en fait dans les programmes réguliers, si on pense en éducation physique ou entre autres dans les institutions scolaires, qu'est-ce qui manque pour pouvoir davantage inclure les jeunes qui ont des limitations fonctionnelles dans le sport?
Selon moi, c'est vraiment un problème d'attitude et d'ouverture d'esprit. Je pense pas que. Parce que on s'entend que c'est sûr que souvent les infrastructures sont pas adaptées, puis c'est ce qui demande le plus de moyens. Mais généralement, avec un petit peu d'inventivité, on s'en sort. Mais la crainte qu'on remarque le plus chez les enseignants, c'est la peur. Ils ont souvent peur que le jeune se blesse alors que le jeune nécessairement une condition si grave
risque,
que ça, exactement, si à risque. C'est ça, dans les interactions avec les autres jeunes, souvent il y a cette crainte-là. Puis il suffit juste, je pense, de regarder le problème un peu d'un autre angle. Et puis d'y aller de l'avant, il n'y a pas de risque en général.
Et d'oser, en fait.
Exactement.
Parfait. Elsa Lavigne, vous êtes directrice par intérim du projet Choisir de gagner, mis de l'avant par le défi sportif Altergo pour l'inclusion sociale des jeunes avec une limitation fonctionnelle par le sport et le loisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.